Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Alors, comme toujours, maintenant vous êtes habitués, vous êtes rodés, vous avez simplement à aller sur leur site web, utiliser le code promo HISTOIRE15 et vous aurez un magnifique rabais sur tous vos achats coquins. Aujourd'hui, Evelyne Ferron,
oui.
Nous allons aborder un gros chunk de l'histoire.
Qui nous est quand même beaucoup demandé. On s'entend quand on fait ces sujets-là, que ce soit le roi Arthur, que ce soit le Saint-Suaire, c'est qu'il y a de la demande pour ces sujets. Et lui, vraiment, je pense que depuis notre première saison, il est dans la liste.
Oui, mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Oui. Aujourd'hui, on va parler des Borgia. On dirait qu'il aurait fallu qu'il y ait une musique.
Oui, c'est ça.
Mais oui, mais les Borgia, de un, tout le monde en a déjà entendu parler. Tout le monde... Mais tu sais, le nom Borgia, personne fait le saut là, quand on les
nomme. Je pourrais dire qu'il y a beaucoup d'étudiants de cégep qui me regardent le regard vide quand je les mentionne. Alors, je suis obligée de les introduire. Oui.
En fait, je pense que la plus grosse difficulté des Borgia, c'est de départager le vrai du faux. Parce que, ben oui, ils ont existé, oui, ils ont été excessivement puissants, mais comme n'importe quelle personne aimée et détestée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fausses histoires, de rumeurs qui ont circulé, et là, départager le vrai du faux... Oula, c'est tout un programme, mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, là. C'est pas ça qu'on fait aujourd'hui.
Ben, on va quand même essayer d'aller vers ce qu'on sait de véridique et les rumeurs et pourquoi c'est des rumeurs, mais qu'on n'arrive pas à prouver ou à ne pas désapprouver, on va dire ça comme ça. Il y a des sujets, des rumeurs qui circulent depuis le 16e siècle qu'on n'a pas de source autre pour dire est-ce que ça s'est passé ou ça s'est pas passé. Donc, il y a surtout beaucoup de flou, je te dirais, qui servent Hollywood à la perfection.
Ah ben voilà, parce que ça rajoute une couche aussi à l'imaginaire. Toutes les séries, tous les films qui ont été faits sur eux, c'est facile.
Un jeu vidéo, Assassin's Creed.
Oui, jeux vidéo, c'est vrai. Fait que c'est comme facile d'entremêler aussi la fiction et la réalité. Mais là, on dirait, je sais pas par où le prendre. Comment ça commence, les Borgia? C'est une bonne question, ça?
Ça commence avec une famille d'origine espagnole qui va latiniser ou italieniser son nom en Borgia, mais en fait, c'est Borgia. Et donc, ça commence au 15e siècle dans une période assez particulière. Donc, on va se placer dans le temps, tiens. Parce que c'est des sujets qui sont pas toujours faciles et comme c'est quand même un balado d'histoire ici, ça peut vous aider à vous... Ben, vous replacer dans ce que vous voyez à la télé, mais vous replacer tout court peut-être dans des vieilles notions, comment dire, de choses que vous aviez vues quand vous étiez, je sais pas, au cégep ou au secondaire, je sais pas quand vous en avez entendu parler, parce que c'est sûr qu'on entend surtout parler des scandales, là, mais c'est un petit peu plus... complexe que ça. Donc, la première chose à comprendre, c'est qu'on est fin 15e siècle, on est dans la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, OK? Dans les années 1400, là, on est vraiment dans cette transition-là. L'Italie est comme celle qui va démarrer cette nouvelle ère, bon, du point de vue des arts, de bien des choses, mais c'est aussi une période de grands changements politiques où on s'en va vers des États de plus en plus modernes où les rois vont vraiment vouloir gouverner un royaume. On s'en va vers les découvertes qui vont amener certains royaumes à devenir des empires coloniaux. Le monde, l'économie, les interactions internationales bougent beaucoup et on cherche du territoire pour avoir, un peu comme Marie-Thérèse d'Autriche, on en avait parlé, la Silésie, là, ce territoire minier. C'est, même si c'est plus tardivement, on cherche quand même à mettre la main sur des territoires qui nous permettent d'avoir des richesses ou une espèce de capital quelque part. Donc, on entre dans une période quand même qui est très guerrière aussi. On a pensé, ne serait-ce qu'à la fin de cette période-là, mais des François Ier, Charles Quint, ton Charles Quint...
Jamais
Henri VIII et tout ça qui guerroient avec Soliman le Magnifique du côté de l'Empire ottoman. Pourquoi? Pour du territoire, pour des ports aussi, des accès aux ports, pour le transport maritime, le commerce maritime. C'est une grosse plateforme, mais religieusement, c'est aussi quelque chose. Tout ça va se passer en même temps quand nos Borgia arrivent. C'est pour ça que je vous place comme ça. C'est qu'on vient... Il vient de se terminer une crise pontificale qui a quand même marqué l'Occident. que tu connais peut-être.
Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans le roi les Rois maudits? C'est ça?
Les Rois maudits, l'esquisse-t-il? Je crois que oui, oui.
Parce qu'il y a un pape en France, puis il y a un pape à Rome.
Exactement.
Il y a deux papes en même temps, mais là, lequel est le bon pape? Est-ce que la papauté est en Italie ou à Avignon? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Deux papes pour le prix d'un.
Deux papes pour le prix d'un parce qu'il y a des dissensions à l'intérieur de l'Église sur la façon dont c'est géré, comment le Vatican, qui est quand même un État en Italie. Il y a plein de conflits. On appelle ça le grand schisme d'Occident parce que c'est une séparation de visions religieuses. Et ça, c'est vraiment notre époque. Nos Borgia arrivent dans cet univers qui est un peu particulier. Le grand schisme d'Occident, juste pour vous placer, on va parler de 1378 à 1432.
C'est long.
Oui, c'est vraiment long. Et voilà, et tu l'as bien expliqué. Oui, les Rois maudits l'esquissent aussi, cette idée qu'on va avoir le pape à Rome, mais là, il a un... quelqu'un, en fait, qui... de, comment dire, qu'on conteste son pouvoir et il se trouve à Avignon. Il y a deux papautés. Et celui qui a négocié la fin de cette crise et qui va rétablir la papauté à Rome, et ça va être la fin de la papauté d'Avignon, c'est l'oncle du premier, de Roderick Borgia. Alors, il s'appelle Alonso Borgia, il est espagnol, et il est un négociateur pour ramener le pape à Rome et mettre fin, en fait, à la papauté d'Avignon. Est-ce que tu me suis bien jusque-là?
Ça va très bien. Un espagnol règle le problème des deux papes, envoie tout ça en Italie. Voilà, mon résumé.
Voilà! Donc, il s'appelle Alonso Borgia et il va en venir à être pape. Il va devenir le pape Calixte III. Et donc, il va être sur le trône pontifical là, je pense dans les années 50, si je ne me trompe pas. Et comme il est pape à Rome, il va italianiser en Borgia pour que ce soit plus facile à prononcer. Et comme c'est l'oncle de Rodrigue, ben, ce jeune Rodrigue va tout de suite avoir une formation dans l'espoir qu'il ait une carrière ecclésiastique, parce que c'est une époque où, pensez aux Médicis avant et tout ça, on place certains membres de notre famille dans les plus hauts postes de l'Église, c'est souvent associé à l'argent. Vous avez de l'argent, vous allez être capable, oui, ils font quand même le cursus religieux pour la plupart, mais je veux dire, ils obtiennent souvent les postes de cardinaux, évêques ou cardinaux, et peut-être éventuellement pape, parce qu'il y a de l'argent derrière. C'est plus le cas.
Oui, puis même en France, il y a ça aussi, là, le cardinal de Richelieu, Mazarin, c'est tous des gens, oui, d'Église, mais qui sont très, très proches du pouvoir.
Ils viennent de familles très noble. Monseigneur François de Laval venait d'une des plus grandes familles de la noblesse française, d'ailleurs, quand il est venu à Québec. C'est tout à fait classique, cette histoire-là. Donc, souvent, on se dit, ah, mon Dieu, les Borgia sont épouvantables. Ils vont acheter des positions. Tout le monde le faisait, ça. Ils sont pas différents pantoute là, dans
cette
histoire.
Ils sont pas pires que d'autres, là.
Pas du tout. Ils sont pas plus corrompus. Ça fonctionne par appui, voir qui va t'élire pape ou qui va te donner la chance d'être cardinal. Ça fonctionne avec tes relations. Ça fonctionne aussi au fait que, est-ce que tu as des moyens financiers qui, s'il y a une guerre ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir appuyer un camp ou un autre. On est dans cette espèce de gros univers de conflit d'économie internationale qui crée énormément de tensions. Et le problème s'appelle l'Italie tout court. Parce que contrairement au reste de l'Europe, l'Italie n'a jamais été un royaume unifié comme la France, l'Angleterre, l'Espagne, bon. Un peu comme l'Allemagne aussi, qu'on a des principautés, mais l'Italie, c'est pire. L'Italie, c'est vraiment une mosaïque de territoires. On a les États pontificaux, on a des royaumes comme le royaume de Naples ou des deux Siciles. On a des républiques.
Ben
oui, voilà. Venise, Florence, nos Médicis, ce sont des républiques qui fonctionnent autrement. Puis on a des espèces de principautés. Donc, si on s'intéresse à la famille des Sforza, ben ce sont des princes, en fait, qui gèrent un petit territoire. Et t'as tout ça sur la même péninsule.
Tout va bien. Tout va... Il y a zéro chance qu'il y ait des conflits, là.
C'est ça.
Tout va bien.
Et non seulement ça, mais comme c'est plus petit, on se dit souvent que ça peut être plus facile à prendre. Ce qui fait qu'il y a des rois étrangers qui s'intéressent à ça et qui, par les alliances aussi, les mariages, vont espérer peut-être réussir à avoir avoir la même mise sur des territoires. Ça va arriver là, dans l'histoire de César Borgia, il va être marié à une Française, lui. Et c'est ce qu'on appelle un peu les guerres d'Italie qui suivent le grand schisme d'Occident. Ça veut dire que tout le monde veut se mêler de ce qui le regarde pas en Italie. Puis là, tu as les papes là-dedans qu'il faut qu'ils maintiennent les états pontificaux neutres, mais en même temps, ils veulent pas se faire envahir. Fait que souvent, il faut qu'ils choisissent des alliés. Choisiront-ils les bons alliés politiques ou choisiront-ils les mauvais? Puis vont-ils comme payer le prix dans tout ça? C'est vraiment le tableau dans lequel s'insère l'histoire de nos Borgia. Donc, j'espère que je suis claire et que ça vous aide à vous faire... C'est pas évident en série télé ou au cinéma non plus quand on touche à leur histoire. Tu sais, la joute politique est pas si facile à comprendre que ça. Je sais pas ce que t'en penses, là, mais...
Ben non, vraiment pas. En fait, l'impression que ça me fait, c'est que tout le monde marche sur des œufs. Tout le monde veut protéger qu'est-ce qu'ils ont, mais en même temps, lorgne un peu qu'est-ce qu'il y a à côté, est-ce que je pourrais aller le chercher, est-ce qu'ils sont plus faibles, est-ce que j'ai des alliances. En fait, ça me fait beaucoup penser à la Première Guerre mondiale, et là, tu vas me comprendre, là, mais dans le sens où c'est tout un jeu d'alliances qui s'est enclenché, clac, 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 et qui a fait une guerre. C'est un peu la même chose, là. Toutes les alliances peuvent tomber d'un bord ou de l'autre. Je serais excessivement stressée d'être un dirigeant à cette époque, moi te le dire.
Ils le sont tous aussi. Et c'est pour ça que l'idée, l'Église ici est beaucoup plus politique à cette époque-là. En fait, oui, ce sont les Borgia qui vont être à la tête de l'Église quand Martin Luther, notre moine allemand, va commencer à contester la perversion de l'Église catholique et va publier ses 95 thèses en disant « Voilà tout ce que vous échappez qui n'est pas correct. » Mais les Borgia ne sont pas les seuls responsables de ce système-là. Il est là depuis longtemps. Leurs successeurs non plus. L'Église... c'est une chose, mais le Vatican et son élite, comme les postes, sont surtout acquis par lignées de noblesse et par l'argent. On s'entend que le respect vraiment des normes du catholicisme pour ces gens-là s'applique très, très peu. Là où Rodrigue est un peu différent, c'est que bon, son oncle devient Calixte III, devient pape, et là, dis-toi, tu vas être le prochain. Alors, on va tout faire pour que tu sois le prochain, pour pas que tu sois contesté. Alors, c'est comme ça que, bon, il va faire son cursus religieux. Il va même étudier le droit à l'université de Bologne. Et ça, c'est l'historienne qui parle et les historiens, au-delà du personnage qu'on aime bien voir avoir des aventures sexuelles épouvantables dans à peu près toutes les séries télé, ça va être un très, très bon diplomate et un grand négociateur. Et le fait qu'il ait étudié le droit à l'université de Bologne, qui est la première université de droit de l'histoire occidentale quand même, ça y est pour quelque chose. Donc, c'est pas un idiot qui arrive comme ça. « Allô, mon oncle était pape, moi être pape. » Vous avez pas ma face, mais pour une fois, c'est moi qui fais rire Gabrielle, juste pour vous le dire.
Mais c'est ça. Donc, Rodrigue, il a fait ses études, il a fait ses classes. Oui, son oncle est excessivement puissant, mais c'est pas un deux de pique, là.
Pas du tout.
Il est prêt. Il est prêt à prendre la relève.
Il est très prêt. Il devient cardinal à 27 ans, ce qui est beaucoup plus... logique et fait qu'il est beaucoup plus préparé que ce que son fils vivra, César, où lui va être cardinal un peu trop tôt peut-être, mais dès qu'il est cardinal, il est reconnu d'ailleurs pour ses talents de diplomate, d'administrateur, et il est un allié de son oncle à cet égard-là. Et il va avoir plein de responsabilités administratives, comme tu dis, c'est pas un deux de pique, puis il travaille, c'est pas quelqu'un qui est là, qui est assis, puis qui joue avec ses bagues de cardinal, puis qui fait comme là, là, là. Il est très, très actif, c'est un travaillant, et ça, on est capable de le démontrer, on a les archives pour ça, ça fait partie de la réalité historique qu'on est capable de dire ça, c'est vrai, OK? Et on sait aussi qu'il est réputé dans les lettres et tout pour être très beau. Dans la série que moi j'ai vue, je ne les ai pas toutes vues, je ne sais pas laquelle toi t'as vue ou lesquelles, j'en ai vu une, celle avec... Jeremy Irons. Moi, surtout que Jeremy Irons est quelque part.
Oui, toi, t'as comme un petit fantasme.
Je fonce, voilà. Écoute, je pense que j'ai eu une forme d'orgasme à l'abbaye de Westminster.
Oui, quand c'est lui qui faisait la narration là, de l'audio guide.
Le meilleur audio guide ever.
Mais
je m'en remettrai jamais.
Alors, non, mais t'as quand même Jeremy mentionné... Irons.
Oui, hein?
T'as mentionné, reviens avec nous, Evelyne, là. Arrête de te toucher, viens-t'en, là.
Oui,
Non, mais t'as mentionné quelque chose. T'as dit que Rodrigue est un cardinal qui va devenir pape, mais t'as aussi dit qu'il avait des enfants.
Mais là, ça s'en vient, c'est parce qu'il arrive à 27 ans. Avant d'être cardinal, honnêtement, c'est pas si grave que ça d'avoir peut-être des aventures et tout, là. Mais il est beau, il plaît aux femmes, et aussitôt qu'il devient cardinal, ben, disons que là, déjà, les rumeurs commencent à circuler. T'sais, il va aller se promener, son cardinal est à Sienne, il est supposé de veiller sur le chantier de construction d'une cathédrale. On est tellement dans les clichés de l'histoire religieuse ici. Il y a beaucoup, beaucoup de dames qui sont vraiment pas insensibles à ses charmes, de ce qu'on en sait. Et autant chez les gens qui l'haïssent et qui vont tout faire pour le démoniser, ce qui n'aide pas les historiens, autant dans des sources, on dirait plus neutres, c'est quand même souligné qu'il plaît aux femmes et qu'il a une faiblesse pour l'amour. Donc, c'est le terme qu'on va utiliser pour être gentil. Au lieu de dire ben, c'est un cochon lubrique, il a une faiblesse pour
ça sonne bien quand même, avoir c'est une...
Fait que, sur votre profil Tinder, mettons que vous aimez ça, vous envoyez en l'air à gauche, à droite, sans vraiment d'attache, vous pouvez tout simplement dire « faiblesse pour l'amour » au pluriel, puis ça va peut-être être plus poétique, et qui sait, peut-être allez-vous gagner des points. Voilà, c'était ma suggestion Tinder que je n'ai jamais utilisée de ma vie. Je suis en couple depuis 23 ans. Ça reste un mystère, tout ça. Et voilà, là, il commence à avoir des maîtresses, et là, il y en a une en particulier qui se démarque. C'est celle, souvent, qu'on va illustrer peut-être plus dans les séries télé. C'est Giovanna Vanozza. C'est avec elle qu'il a 4 enfants. Vous connaissez ces enfants-là. Vous connaissez, entre autres, César Lucrèce, Geoffrey, Giovanni, qu'on appelle souvent Jean. Voilà, les 3 frères et la sœur qui vont former une fratrie qui va marquer un peu l'imaginaire. Et il fait ça avant d'être pape. Ça, c'est une chose qui est vraiment très, très importante parce que souvent, les gens vont dire « Aïe, aïe, il a fait des enfants, il n'était pas pape quand il a fait ça, il était cardinal. » Mais déjà, à l'époque, c'était quand même considéré à la fin du 15e siècle comme étant pas correct. T'es un cardinal, t'es pas supposé avoir 4 enfants. Tu peux t'envoyer en l'air comme tous, mais je veux dire, utilise une protection ou arrange-toi pour... pas avoir une vraie famille. Donc,
Parce que lui, il les reconnaît, ses enfants.
Il les reconnaît, en tout cas, il en a reconnu 4. Est-ce qu'il en a eu d'autres avec d'autres maîtresses? Parce que comme les sources nous laissent penser, il était très populaire. Ça fait partie des flous. Il suffira peut-être un jour dans les archives du Vatican qu'on tombe sur une lettre et quelque chose qu'on réalise, ah, ben, il en a enfanté peut-être 2-3 autres, ce qui est tout à fait possible. Ça se peut aussi que ces femmes-là ne lui aient jamais dit parce que c'était un cardinal. Tu sais, il y a plein de situations. Mm-hmm. Donc, on dit des enfants reconnus. On a toujours ce doute historique qu'il y en a d'autres. Mais ils sont inconnus. Et là, arrive ce qui doit arriver. Nous sommes en 1492 et non, nous ne parlons pas de Christophe Colomb. Il devient pape. Et pour y arriver, ben c'est ça. C'est sûr que c'est une époque où tu payes des gens, tu t'assures que les gens soient de ton côté. Les séries ont tendance à... dramatiser ce moment-là de l'histoire de Rodrigue Borgia en disant « Oh non, il est deuxième, troisième choix, quatrième choix, puis là, il faut qu'il paye pour pouvoir être celui qui va sortir de la fumée, là, tu sais, qu'il va être là. » Dans les fiches, une majorité de cardinaux, il était numéro un, et ça, on est capable de démontrer historiquement parlant, parce que ses talents de diplomate, ses études en droit, il a démontré qu'il était un bon administrateur, puis qu'il était capable de négocier avec des têtes politiques.
Et là, c'est quoi son nom de pape?
Alexandre VI. Alors, Rodrigue devient Alexandre.
D'accord. Et là, Alexandre VI monte sur le trône, a ses 4 enfants.
Ils sont déjà là.
Sa best vie de pape, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe?
À bien des égards, best vie de pape, certain. parce qu'il lui arrive quand même plusieurs choses quand il arrive sur le trône pontifical. Nous sommes en 1492, donc je te l'ai dit, Christophe Colomb arrive dans le décor. Et là, c'est la découverte européenne des Amériques. Et s'en suivent des Espagnols et des Portugais qui font comme « Ouh, 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 nouveau territoire, nouvelle ressource, Christophe Colomb et des patates, c'est pas l'Inde, c'est vraiment un nouveau territoire! » Et veulent les ressources en or, entre autres, des sociétés préhispaniques que sont les Incas, Aztèques et compagnie. Et ben là, ils sont en compétition parce que là, ils arrivent les deux royaumes très catholiques en Amérique du Sud, entre autres, et ils ont la même visée de l'or, et là, ça se chicane, et ben, qui peut régler la chicane? le pape. Alors, un des premiers actes marquants de l'histoire d'Alexandre VI. Alors, les gens souvent voient bulle papale Alexandre VI et n'allument pas que c'est Rodrigue Borgia, en fait. C'est cette fameuse bulle papale où il dit « Bon, ben c'est bon, on va vous séparer l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale en deux, les Portugais d'un bord à l'est, les Espagnols à l'ouest. » C'est ce qui fait que les Espagnols vont faire la conquête du Pérou, Chili, puis vont descendre comme ça. Puis les Portugais, ben, sont entre autres au Brésil.
Il n'y a que le Brésil. Ça s'est vraiment fait avoir, les Portugais.
Ben, ils descendent l'Amazonie, tout ça. Mais disons que le Brésil va rester le gros territoire de ce côté-là. Et il faut dire que les Portugais sont dans les îles Antilles, eux autres aussi, en Afrique, bon, à bien des endroits. Et là, ben, les Anglais et les Français font comme « Hey, the fuck, le pape, c'est quoi ton problème? Nous autres, si on voulait aller dans ce coin-là, là, on peut plus y aller. » Donc, c'est un petit peu ce qui amène nos Européens vers le nord et qui amène les pirates à couler, les navires espagnols et portugais pour leur pied et leur or. Tu vois toutes les ramifications de cette décision de Rodrigue Borgia qu'il n'avait sûrement pas envisagée quand même à l'époque.
Donc, c'est ça. Mais non, il a donné une chance, là. Il savait même pas que tout ça existait. Lui, il pensait faire la bonne chose, là, quand même. Là. Je suis indulgente envers Rodrigue.
Ah, hey, il a tracé une ligne. On dit Tiens, séparez-vous ça. Je fais de la diplomatie. Tout le monde égal. Soyez heureux. Ça, c'est pas passé comme ça, mais quand même. Ça marque l'histoire on appelle de l'époque des découvertes. On peut dire qu'il est vraiment le premier pape de la Renaissance, le gros pape là, des débuts de la Renaissance à cet égard-là. Et là, il va vouloir, comme son oncle, planifier la suite. Parce que, tu sais, il est quand même rendu à un certain âge. On ne vit pas vieux au 16e siècle. Et les chances de mourir empoisonné ou assassiné dans un contexte de joute politique s'il n'appuie pas les bons joueurs dans les guerres d'Italie, c'est sensible et c'est un petit peu ce qui fait que il dit, bon, là, ça me prend des alliés, moi, très proches. Il nomme beaucoup de cardinaux et ça, ses détracteurs vont lui reprocher. Il va faire un peu comme Donald Trump à la Cour suprême en disant, moi, je vais choisir des gens qui pensent comme moi, moi, les mettre juge comme ça. Vos droits à l'avortement, fuck you, même si je suis plus président, vous allez quand même souffrir. C'est un peu le même principe, c'est qu'il va mettre des gens qu'il connaît, qui lui sont fidèles et tout ça par l'argent, par les relations familiales et autres. Lucrèce, il l'a fait marier aux Sforza, donc principauté très importante. Il utilise sa fille.
Il me semble qu'elle a une histoire full tragique, Lucrèce, en plus.
On la connaît pas très, très bien, mais elle va avoir trois maris.
Ben, c'est ça, tu sais.
Elle est le pion politique de son père parce que c'est la seule fille, donc c'est la seule qui peut, comme ça, marier.
Mais oui, il n'y a pas une de ses maris qui a été assassinée, ou plus qu'un?
C'est ça. Oui, ben, histoire tragique, on la connaît très mal. S'il y en a une, on connaît beaucoup mieux César, grâce à Machiavel, entre autres. Mais Lucrèce, à part être un personnage de l'imaginaire beaucoup, ou justement la sorcière dans la famille des Borgia par les détracteurs dans l'histoire, ça reste beaucoup de la rumeur. On connaît très, 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 très mal cette femme-là. Elle n'a pas laissé beaucoup de traces. Je dirais que c'est là où le bas blesse dans l'histoire des Borgia. Mais César, futé, intelligent, son père le sait, et à 18 ans, il dit « Toi, tu t'en vas cardinal. » Puis le monde dit comme « Quoi? »
Lui, il était... À 18 ans?
Ouais, Rodrigue était cardinal à 27. Lui, à 18, il est cardinal. Peut-être même 17, là, parce qu'il y a des petits flous aussi sur sa date de naissance. Fait que... C'est ça. Imaginez-vous quand vous aviez 17-18 ans, ou présentement, vous avez peut-être 17-18 ans, et je vous dis demain matin, vous êtes cardinal, avec une chance de devenir pape, parce que c'est ce que papa veut.
Tout ça, moi, j'ai 38, je pense pas que je serais prête à être cardinal, tu vois, comme, tout ça me semble une très mauvaise idée.
Je vous laisse y penser. N'empêche, j'ai choisi le plus intelligent de la fratrie pour y parvenir. Il marie Lucrèce à la famille qui souvent tient l'équilibre. Les Sforza, s'ils tombent d'un bord ou de l'autre, ça crée des problèmes majeurs en Italie. Donc, Lucrèce est là pour dire, bon, ben ce que papa veut, vous allez le faire. elle a un rôle quand même là-dedans. Donc, il joue avec ses enfants comme des pions, mais donc César, lui, devient cardinal. Mais c'est pas nécessairement la carrière dont il aurait rêvé. Là. C'est ça. lui, il aurait peut-être aimé mieux être sur le champ de bataille. Alors là, arrivera l'histoire de notre César qui s'en vient, qui va être un petit peu plus, je te dirais, compliqué. Et là, c'est sûr que quand il est pape, ben, il se mêle de beaucoup... de situation sensible, donc politique.
Quand César est pape.
Non, quand on parle encore de Rodrigue.
OK, donc Rodrigue Alexandre VI est pape, rend son fils à 18 ans cardinal, marie sa fille. Les deux autres, il fait quoi avec? Il est place aussi?
Les deux autres, en fait, vont souvent jouer dans l'armée. Il y en a un qui est dans l'armée, en fait. Il y en a un qui est un petit peu moins connu. En fait, il y en a un qui est assassiné et on pense que c'est César qui va l'assassiner.
Belle relation frère-frère, là.
Ben, c'est ça. Pour des séries télé, tu sais, c'est quand même assez fascinant, quand même, de voir comment ils peuvent se... C'est ça, se... s'entretuer eux-mêmes. On sait qu'il a même couché... César couchait avec la femme de son frère Geoffrey. Ça, ça fait partie des rumeurs. Non, on peut pas les démontrer, mais on ne peut pas les nier non plus.
Mon Dieu, mais les parties de Noël devaient être tellement awkward. Hein?
Ben, c'est parce que là, entre dans cette histoire le fait que les Borgia, à cette époque-là, comme une certaine Catherine de Médicis, sont associés à l'utilisation du poison.
Pourquoi?
Et parce que c'est une époque où beaucoup de gens meurent dans des circonstances bizarres, dont Alexandre VI.
Qu'est-ce qui est arrivé?
Il meurt. En 1503, puis on n'a jamais su, il est mort de quoi? Est-ce qu'il est mort de malaria? Un petit peu comme Alexandre le Grand, là, tu sais, on se dit, ah, c'est-tu la malaria? Parce que ça a quand même des conséquences assez graves. Est-ce que c'est le résultat d'une syphilis? Est-ce qu'il a été empoisonné? On ne l'a jamais su, on ne le saura probablement jamais, mais il meurt, puis c'est pas évident à ce moment-là. Et là, César se dit, moi, je veux pas être pape, là. Ben, il est mort, mais moi, non, il n'en est pas question, je ne serai pas pape, alors je vais aller faire autre chose de ma vie, si vous voulez bien. Parce que c'est ça, ça l'intéresse vraiment pas. Il y a même du monde qui se demande si c'est pas César qui serait responsable de l'assassinat de son propre père parce qu'il y avait un petit peu peur, en fait. Il va faire quelque chose d'assez unique, César, c'est qu'il va renoncer au cardinalat. Dans l'histoire, il n'y en a pas eu vraiment beaucoup. C'est de ce qu'on en sait le premier à avoir dit « Moi, désolé, mais je renonce. » Il a renoncé avant que son père, d'ailleurs, soit mort.
Là, assassiné.
Oui, okay. Quelques années avant. Et moi, pas question que je devienne pape. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est protéger les territoires. Ce qui m'intéresse, c'est gérer des armées. Donc, à moins d'avis contraire, à moins qu'une source... arrive de nulle part, caché dans une bibliothèque en Italie ou en France ou ailleurs. César Borgia serait le premier homme de l'histoire du Vatican à avoir renoncé en cours de fonction à être cardinal. Donc ça, c'est quand même un autre jalon assez important.
OK.
Préfère donc l'armée, protéger des territoires et être un militaire. Et ce prince, ben c'est ça, lui, il va se marier à une Française. Ça va.
Donc, c'est César pitch le cardinalat par la fenêtre,
ouais,
et se marie avec une Française pour devenir un guerrier.
Genre. Exactement. Ben, si on résume, c'est pas mal qu'est-ce qui est en train de...
Je suis vraiment bonne pour les résumés, je trouve.
C'est vraiment parfait. C'est là où, bon, tu vois, il y a la réalité puis il y a la légende. Il va remplacer son frère qui était militaire. C'est ça qu'il veut. Est-ce qu'il est responsable de la mort de son frère pour pouvoir prendre sa place? C'est ça, quand on va monter la légende noire des Borgia, quand le protestantisme va monter aussi, qu'on va vouloir montrer à quel point le Vatican a une histoire corrompue et tout ça, ils vont être idéaux, en fait, pour en faire les monstres par excellence qui ont perverti complètement l'institution religieuse. Ce n'est pas démontré, mais tu sais, il y a cette rumeur que César porte toujours une bague qui contient du poison et qui a des griffes sur les côtés, que s'il te calisse un coup de poing au visage, il te griffe, il t'empoisonne en même temps et tu meurs. Un peu comme Catherine de Médicis, on se demande bien s'ils n'ont pas des gants recouverts de poison pour que quand ils serrent des mains de certaines personnes qu'ils veulent voir disparaître, ben tu sais, voilà. Est-ce qu'ils empoisonnent le vin? Ils vont avoir des goûteurs, ça on le sait, parce qu'eux-mêmes ont peur d'être empoisonnés. Comme je te dis, il y a un doute sur Alexandre VI. Fait que voilà, alors.
Mais tu vois, moi, ma mère, elle me disait tout le temps, ma mère me dit tout le temps, il y a juste les voleurs qui ont peur de se faire voler. Fait que peut-être que ça s'applique aussi, il y a juste les empoisonneurs qui ont peur de se faire empoisonner. On le sait pas, là.
Disons qu'ils ont pu faire disparaître quelques ennemis de cette façon-là. Lucrèce, ben, comme on la connaît mal et que c'est la femme par excellence, puisque par ses mariages, trois mariages quand même, va œuvrer dans la diplomatie par le côté blabla, là, tu sais, je veux dire, elle va parce qu'on manque de sources, va devenir la femme empoisonneuse par excellence, alors qu'il n'y a rien, hein, je vous dis, il n'y a rien qui le démontre. Là, ça, bienvenue à Hollywood, tout le monde peut s'amuser avec ça, mais pas juste Hollywood, à l'époque même, quand on démonise le Vatican avec la montée du protestantisme, Lucrèce devient comme une espèce de sorcière par excellence, alors qu'on ne la connaît pas.
Mais c'est qu'il y a tellement de zones grises dans leur histoire que c'est parfait pour aller y mettre tout ce que tu veux. Là.
Ah, ça fait très Hollywood, fait que là, tu sais, il y a toujours des scènes, tu sais, moi je vois encore les scènes où ils sont là, puis ils mangent tous avec des cardinaux, puis ils regardent toute leur coupe de vin, puis ils jasent, puis puis là, ils sont tout en train de dire « Calice, vais-je mourir? » Ah, tu sais, c'est comme... c'est à peu près c'est un très gros cliché dans les représentations des Borgia à l'écran. c'est un peu ça qui se passe. Mais ce qui est intéressant, par contre, avec César, c'est qu'il est mieux documenté parce que, ben c'est ça, là, il a des relations avec le royaume de France. Donc, en fait, il va être fait duc de Valentinois dans le sud-est de la France au départ parce qu'il a des bonnes relations de par le fait qu'il était cardinal avant avec Louis XII. Et là, il va le marier à la sœur de Jean III de Navarre, Charlotte d'Albret, si je ne suis pas dans l'erreur, qui va tromper allègrement. Hein. Le fils, c'est comme son père, là... Il a une faiblesse pour l'amour.
Moi, j'allais dire, il court la galipote, mais...
Il la court joyeusement, lui aussi. et là arrive la chose qui est difficile à démontrer, c'est que il a tellement couché à gauche et à droite qu'il aurait eu la syphilis, qui court beaucoup à l'époque. Hein. C'est un problème majeur au 16e siècle, la syphilis. Et il en aurait eu quand même des conséquences assez sévères parce que le beau César serait devenu défiguré au visage, sur une partie du visage à cause de la syphilis. Et il aurait souvent porté un masque, d'ailleurs, pour pas qu'on voit les ravages, en fait, de la syphilis sur sa peau. Encore une fois, il n'y a pas de portrait qui le montre en train de se composé ou quoi que ce soit. Le peu de portraits qu'on a de César Borgia, c'est très typique de son époque, là, je veux dire. C'est pas... Il y a rien d'extraordinaire là-dedans, là. Peut toujours... c'est pas François Arnault qui le faisait dans la série? Il me semble que oui.
Ah oui, il y a un Québécois qui l'a joué, c'est vrai?
Oui, c'est François Arnault. C'est sûr que, bon, là, il commence à peut-être être moins cute que l'image que vous faites de François Arnault à l'époque.
Fait que, c'est sûr que la moitié de ta face se décompose, là, tu perds peut-être un petit peu de ton charme.
Ben, c'est ça, tu sais. Puis, bon, on sait que, voilà, il aurait tué son frère Juan par jalousie, mais ça, c'est pas clair. C'est plus la rumeur ici là, qui entre là-dedans. Mais on sait qu'il couche avec la femme de son frère Geoffrey. Il remplace donc son frère Juan qui est décédé. Peut-être par lui, à la tête de l'armée papale. Fait que, tu sais, il y a toute une carrière, quand même, qui va faire en sorte qu'il va pouvoir devenir un prince, parce que c'est ce qu'il va obtenir de grâce à la France. Et c'est comme ça que Nicolas Machiavel le rencontre et dit « Wow! Quel personnage! » Il sait quand être gentil, mais il sait aussi quand dire « Toi, tu vas aller te faire voir! » Et il sait des fois comment avoir l'air gentil tout en se disant en arrière, toi, tu vas aller te faire voir. Et donc, Machiavel écrit le prince pour dire, ben, c'est quoi un bon prince? En fait, ça veut pas dire juste quelqu'un de... Ça peut pas être juste quelqu'un de gentil, de juste tout le temps s'il veut obtenir ce qu'il veut, entre autres, sur le champ de bataille, en politique. Et bon, arrivera la naissance du machiavélisme. Et tout ça, c'est César Borgia qui en est l'inspiration.
Qui inspire! Wow.
Oui, c'est pour ça mon lien avec Eros, tu vas voir, c'est que des personnages dont les actions donnent naissance à des mots de vocabulaire dans la langue. Des fois, ça peut être des mots de vocabulaire associés à la violence sexuelle.
On y viendra plus tard. Mais après, là, OK, mettons, on a eu le premier pape, après on a eu César, on a eu Lucrèce, on a eu, bon, les frères et sœurs, mais après eux, est-ce que les Borgia continuent d'être aussi intéressants ou comme ça finit là?
Non, ils disparaissent vraiment. Ben, je veux dire, ils meurent, là, je veux dire, puis...
Bon, oui, mais dans le sens, leur descendance aurait
c'est Lucrèce qui a le plus de descendants. C'est des descendants là, qui vont se marier dans les familles italiennes, mais jamais les enfants de Lucrèce auront le poids ou la la prestance de Alexandre VI et César. Donc, tu sais, quand on parle des Borgias essentiellement, on parle de ces trois-là. Parce qu'après ça aussi, ben, l'Église, lentement, mais sûrement, entre vraiment dans l'art, le style de la Renaissance, on va entrer avec des Médicis qui vont commencer à entrer du côté de la papauté. Ça va être vraiment la Basilique Saint-Pierre, tout ce que tu veux. Bon. Mais c'est sûr que César Borgia peut être marqué, pas juste parce qu'il est le prince de Machiavel, mais ça reste quelqu'un qui s'y connaissait vraiment du point de vue militaire, dans les tactiques, et il a même embauché un certain Léonard de Vinci, qui avait un peu de misère à avoir des contrats, parce que de Vinci ne faisait pas que des portraits du tableau, il aimait tout ce qui était technologique, et il tripait sur l'hydraulique. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle peu de Léonard de Vinci, mais pourtant, hydraulique, ma passion, alors, et voilà. Et, ben oui, mais je suis une spécialiste de la gestion de l'eau dans le désert.
Arrête, pardon! J'étais genre, l'hydraulique, ta passion. Ouais, ouais, c'est ça, là. Puis c'est vrai, pardon, tu tripes sur l'hydraulique?
Ben oui, depuis la maîtrise, je me suis spécialisée en gestion de l'eau dans le désert en Égypte à l'époque des Grecs et des Romains.
Oh mon Dieu, dis pas ça, genre Hydro-Québec va venir cogner à ta porte dans 2 secondes non, pour venir t'engager.
On s'entend, dans le désert, en Égypte, à l'époque des Grecs et des Romains, mais un peu des à l'époque pharaonique aussi, mais des Perses aussi, mais oui, c'est... Comment on fait de l'agriculture en zone désert?
Ah, ben voyons, pourquoi je savais pas ça?
Je suis pas sur les toits, mais mes spécialités d'origine, parce que la vie m'a barouettée à bien des endroits autres. Mais oui, pour les gens qui ne le savent pas, mon mémoire de maîtrise était sur une région vraiment fabuleuse qu'on appelle le Fayoum, qui est pas très loin du Caire, mais qui est, dans le fond, le lac qui s'y trouve, sur lequel je suis déjà allée, où mes pantalons ont fondu. Plein de territoires intégristes. c'est un lac salé qui est un des derniers vestiges de la grande mer du Sahara. Donc, c'est le Birke Karoun, où on l'appelait à l'époque le lac Moeris en grec. Et c'est une région donc, qui était alimentée par une branche du Nil, mais en retrait. Donc, moi, j'ai travaillé sur comment on a pu faire des cultures qui plaisaient plus aux Grecs, comme l'olive, la vigne, qui ne poussait pas très bien en Égypte, en réussissant à mieux contrôler, en fait, le phénomène des crues, parce qu'on n'est pas sur le bord du Nil. Comment on peut gérer l'arrosage, les périodes d'alternance sécheresse-arrosage pour créer des domaines agricoles qui amènent une diversité à cet égard-là. Puis j'ai étudié donc comment la désertification du Sahara a amené beaucoup de problèmes agricoles et même des abandons de villages que je suis allée visiter dans le désert en ruine en Égypte. Puis au doctorat, ben là, je me suis portée vers les oasis, d'où mon arrivée avec Assassin's Creed parce que l'assassin est dans une des oasis que j'étudiais et que ben, le gros de mes... même si j'ai pas terminé ma thèse, pour des raisons vraiment trash, mais c'est pas grave. J'étudiais vraiment, en fait, comment on gérait l'eau dans des oasis qui sont éloignées complètement de la vallée du Nil en travaillant avec l'eau souterraine, donc l'eau artésienne. Autant chez les Égyptiens, les Perses, les Grecs, les Romains.
Moi, je savais pas. Je savais pas tout ça. Bon, je viens d'en prendre.
C'est pas vraiment fascinant pour monsieur, madame, tout le monde, là. Je veux dire, c'est des études très, très spécifiques, mais je suis toujours de très, très près parce que tout ce qui touche à la gestion de l'eau en milieu désertique, ça m'intéresse.
À l'hydraulique. T'es officiellement ma seule amie qui s'intéresse à l'hydraulique. T'es officiellement...
C'est fascinant, mais tu sais, je suis pas une ingénieure, hein, fait que je le regarde avec un regard d'historienne, mais tu sais, d'aller chercher de l'eau jaillissante dans les sous-sols du désert, les oasis, c'est une cuvette géologique, hein, c'est que ça descend sous le niveau de la mer, c'est là qu'on se rapproche des sources souterraines, c'est que c'est plus facile d'aller chercher cette eau-là.
Mais fait que ce que tu es en train de me dire, dans le fond, c'est que toi et Léonard de Vinci, vous aviez une passion commune.
Oui, c'est ça qui est l'hydraulique, sauf que moi, je vais l'étudier historiquement parlant, lui, il va créer les machines, par exemple. Oui, moi, Léonard de Vinci,
pareil.
Tu sais que je ne sais même pas dessiner un bonhomme allumette. Hein?
Je le
oui,
sais.
Oui, donc voilà. Non, il n'y a pas de lien entre moi et Léonard de Vinci, malheureusement. Mais au-delà des flotteurs, c'est un ingénieur de Vinci et tout ce qui est machinerie militaire un peu, mais vraiment comment améliorer l'arrivée d'eau, comment mieux la contrôler, surtout si justement tu veux fortifier puis être en état de siège, comment garder un apport en eau et tout ça. Ça fait en sorte que César Borgia a embauché Léonard de Vinci comme ingénieur militaire et surtout comme ingénieur hydraulique. Donc ça, c'est quand même, tu sais, des liens assez importants. Avant que De Vinci retourne à ses pinceaux, il a beaucoup, beaucoup fait ça. Fait que ça montre l'époque aussi. Quand je dis qu'on est vraiment dans la transition fin Moyen-Âge avec son père, mais lui, il est vraiment plus, on est dans la Renaissance. Mais pas juste la Renaissance des arts, mais la Renaissance où les États se constituent et se constituent par les guerres, par les alliances diplomatiques, par le poison aussi, même si ça, c'est pas aussi bien documenté. Mais voilà, fait que tu sais, c'est quand même assez... On sait qu'il a été à la cour de César Borgia, Léonard de Vinci, peut-être à peu près un... plus d'un an au moins, même peut-être plus. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, il va être capturé sur le champ de bataille, il va se retrouver dans une prison espagnole, il va réussir à s'en sauver. Et finalement, il meurt en 1507 dans une embuscade militaire. Et il est tellement détesté, ça c'est quand même assez particulier pour César Borgia, que son corps va être laissé, genre, sur le champ de bataille, il a 31 ans, on va y enlever tout son linge, ses bijoux, puis on va le laisser comme, tu sais, pourrir là. Finalement, on va l'amener... une église, le nom de l'église exacte m'échappe, mais il va se retrouver en tout cas dans une église. Laquelle, c'est ça que je me demande, faudra rechercher. C'est le nom de l'église que je cherche. Je sais que c'est Santa Maria de quelque chose, mais il y en a tellement. Ah oui! Santa Maria de Viana, c'est ça. C'est là qu'il est inhumé. Et là, il y a une histoire trash avec le corps de César Borgia.
Plus trash que Richelieu, que les gens jouaient avec sa tête au soccer?
Non, mais quand même. T'sais, son corps est laissé sur le champ de bataille, piétiné, ouais. Et tout ce que tu veux. Il n'a pas une bonne réputation, parce que plus monte le protestantisme, plus les Borgia vont devenir comme les monstres.
Des diables, ouais.
De tout ce qui va mal en Europe. T'sais, à un moment donné, on va tout leur mettre sur le dos, finalement. Là. Mais c'est ça. C'est Santa Maria de Viana, c'est ça. Son tombeau est détruit après qu'il ait été enterré là, parce qu'il y a eu des travaux de restauration. Puis là, l'évêque s'est dit, oh, mon Dieu, mais vous les bien... parce que là, ils sont moins bien vus au fil du temps. Je veux pas du corps de César Borgia dans mon église. Enterrez-le dans la rue en face de l'église pour qu'on lui pile dessus constamment. Donc, c'est son corps, c'est comme retrouvé dans la rue. Pour qu'il y ait l'idée que les gens lui marchent encore dessus une fois mort. Fait que ça te donne quand même une idée. Et là, à un moment donné, les historiens, au 19e siècle, on est plus dans le romantisme, hein, puis on s'intéresse aux Borgia parce qu'ils sont fascinants, mais on se dit c'était pas un idiot. Puis on relit Machiavel, puis on est comme, mais il était vraiment pas con, en fait, César Borgia. Alors, on exhume, on analyse, en fait, ses ossements. Ça a été fait une première fois au 19e siècle. On va le refaire en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on va le déplacer, on va le déplacer à un moment donné devant un hôtel de ville, puis on va le retourner à l'église Santa Maria de Viana. Je pense genre quelque chose comme en 2000 quelques, là, pas loin de sa date de décès. Là, il est vraiment sous l'église, là où il était, où à l'origine. Là. Mais tu sais, il s'est comme promené. Puis tu sais, encore une fois, c'est selon comment on le voit. On l'aimait pas, les évêques disaient « Ah, mon Dieu, un Borgia sur mon hôtel d'église pendant qu'on rénove ça, envoyez-moi ça dans la rue, puis lais-y dessus, tu sais, j'ai pas de lien avec les Borgia! Oh, » oh, oh. Alors que les protestants maïssent. Et plus tard, ben là, c'est ça, les Victoriens vont comme faire « Ouh, intéressant, ça, c'est un Borgia! Sortez-moi ça de là!
» Puis la fin de vie de Lucrèce, comment ça s'est passé? On le sait pas?
Non. C'est pas clair du tout. On est beaucoup dans la supposition. Lucrèce n'est pas connue, pour être très honnête. Là, on sait qu'elle a eu 3 maris, mais c'est une femme. Elle passe moins dans les archives. Et ici, ce qui est malheureux, c'est de dire « Ah, mais oui, mais j'ai lu plein d'affaires sur elle. »
Tout n'est pas vrai.
Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur elle, comme sur Cléopâtre, qui sont faisons-en la femme des Borgia, qui est l'outil d'empoisonnement et de séduction du père. Là. Elle était... probablement beaucoup plus que ça. Elle devait être quand même assez futée, mais ça n'a pas transparé. C'est pas quelque chose qui transparaît beaucoup dans les archives. Dans les romans historiques, c'est une autre affaire. Donnez-y la personnalité que vous voulez. Historiquement parlant, c'est celle qu'on connaît le moins.
Puis le dernier frère.
Geoffrey? Oh, ouais. Il passe pas non plus beaucoup à l'histoire. T'sais, il marque moins. Là. Il est
qu'est-ce
plus
qu'il
effacé.
A fait, lui?
Ben, en fait, il va faire de l'administration, Geoffrey, à mon souvenir. Oh. Mais,
déjà, c'est un petit peu plate.
mais tu sais, je veux dire, c'est pas... T'sais, l'histoire se rappelle qu'il est cocu.
Ah, bon.
Je sais pas si c'est comme ça que t'as le goût de passer à l'histoire. Non. Mais...
un administrateur cocu, tu sais, pauvre petit minou, là.
Ben, tu sais, ça, c'est le cadet, tu sais, si je me trompe pas, là, Geoffrey, c'est le dernier, là. Mais c'est ça, tu sais, on le connaît pas très, très bien. On sait qu'il va faire partie, à un moment donné, d'une conquête militaire pour le royaume de Naples parce qu'il va s'allier aux Français, parce que ben, son frère est associé aux Français,
fait que c'est comme
là. Puis, il a été prince de... je pense, une petite principauté, mais historiquement parlant, c'est à peu près tout ce qu'on a. Je pense qu'on sait même pas de quoi il est mort.
Ah oh ouais, hein?
Tandis que Juan ou Jean a été assassiné peut-être par César.
Ça marque bien plus. OK, avant de finir sur les Borgia, c'est quoi les trois plus gros, je vais dire, mensonges qu'on croit sur les Borgia? Tu sais, c'est quoi les trois faits qu'on pense que c'est vrai qui sont pas vrais, dans le fond?
Ben, le fait que César, Alexandre VI était pas du tout le premier choix pour être pape, puis qu'il y a eu à beaucoup négocier, payer, tout ça, pour finir par être élu pape, il était beaucoup plus proche du but dès le départ que la majorité des cardinaux. Ça sert... les séries télé pour montrer les manipulations, comment ça se passait à l'époque, expliquer pourquoi le monde laïs plus parce que ben il se mêle de diplomatie, puis il y a des mécontents là-dedans, puis tu sais, je veux dire, n'importe qui aurait été au pouvoir à cette époque-là aurait fait des mécontents parce qu'il faut choisir des alliances. Choisissez-vous les Français dans le contexte des guerres d'Italie, les Sforza, bon, etc. C'est sûr que le fait qu'il ait eu quatre enfants avant d'être pape et que ces enfants-là, tu sais, un devient cardinal, l'autre est dans les armées papales, tu sais, je veux dire, ce genre de choses, c'est sûr que ça... c'était pas éthiquement dénoncé à l'époque. Aujourd'hui, ça se ferait pas, là. Mais ça faisait quand même partie d'une certaine grogne qu'on pouvait avoir envers eux en disant, ben voyons donc, ils sont dépravés, qu'est-ce qu'ils font là? Mais je suis un dépravé. À quel point? Je pense qu'encore une fois, ça sert à Hollywood. Le fait que Lucrèce soit moins connue, puis qu'on joue beaucoup la l'empoisonneuse, séductrice. Le fait qu'ils aimaient les femmes... ça fait en sorte qu'on peut leur prêter des aventures très, très dépravées. Mais, je veux dire, à l'époque, le libertinage, aller voir les rois de France, d'Angleterre, tu sais, il y a juste Charles Quint qui était peut-être plus saint que le pape, justement, dans cette histoire-là, puis c'est un des rares, là. Je veux dire, Soliman le Magnifique, il y avait un harem au complet. c'est pas un problème. Fait, tu sais, c'est que, de notre point de vue... contemporain à nous, quand on voit ça, on se dit, oh mon Dieu, c'est épouvantable, il couche avec la femme de son frère, il dit, mais à l'époque, sans dire que c'était si commun, dans les hautes sphères, le libertinage était quand même beaucoup plus commun que ce que nous, on peut en penser, surtout dans le monde de l'Église, qu'on a une vision de l'Église, d'une Église réformée, ramenée à l'ordre, c'est ça, plus strict du 7e siècle, surtout les conciles et tout. Eux sont avant ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que notre vision de leur dépravation est peut-être pire que ce que c'était en réalité. Ça, ça en fait partie. Et je dirais, l'autre grand mensonge, ben, tu sais, c'est à quel point ils ont usé du poison. Ça sert encore une fois Hollywood super bien. C'est le fun. On en parle parce qu'on se dit, oh oui, les Borgia, César, ils empoisonnaient le monde juste à les toucher. c'est ça pareil.
Il était pas finalement là, des empoisonneurs en puissance, dépravés en puissance, super stupides. Là.
Ah, ils ont sûrement utilisé un peu de poison pour se débarrasser de certains ennemis, mais l'ont-ils fait eux-mêmes directement? J'en doute, parce que si on avait pu remonter jusqu'à eux, ça aurait été problématique. Donc, ça veut dire que ça a toujours, si ça a été fait, ça a été fait par en dessous de la couverte, avec beaucoup d'intermédiaires pour que ça se fasse. Mais tu sais, je veux dire, le cinéma a beaucoup exagéré le nombre de mondes et de cardinaux qui meurent.
En même temps, c'est ça, là, ils peuvent pas tuer tout le monde non plus, c'est là, ça, un moment donné. Ça.
Mais
ça serait louche.
Là, ici, c'est là où ce qui a survécu dans les archives, on est à l'époque où là, l'imprimerie circule, les pamphlets et tout ça, la rumeur puis le besoin de les dénigrer pour leurs ennemis a pris le pas sur la quantité d'archives réelles que nous avons. Et c'est pour ça que je dis ça, ces flous-là servent Hollywood à la perfection. Parce que là, les historiens peuvent pas dire « ça, c'est pas vrai! » Enfin, je sais pas. Fait que, tu sais, on est comme un peu, on est comme un petit peu plus mal pris des fois pour contester ça. Fait que ça fait du très, très bon cinéma.
Tant mieux.
Et voilà, tu sais, c'est ça. Puis c'est ce qui fait qu'on parle d'eux. Sinon, le monde ne s'intéresserait pas à ça. Le parler de l'histoire après le schisme d'Occident, des papes et tout ça, si ça n'avait pas été de ces rumeurs-là, on en parlerait peut-être moins. Du moins, on parlerait plus de César. Parce que reste que César, en étant le prince de Machiavel, des fois, avoir lu Machiavel, ou du moins, il faut s'intéresser à ça. Là, on est dans le. Philo-politique, mais c'est super intéressant. Là. Surtout quand tu comprends à qui il fait référence, on a une bonne idée que César Borgia était vraiment pas un idiot. Il pouvait être cruel, mais quand ça, c'était nécessaire. C'est ça le prince de Machiavel. Hein? C'est un certain équilibre. Un bon prince, qu'est-ce que c'est? Il peut pas juste être bon envers ses sujets. S'il faut qu'il protège son peuple et son territoire, ben faut des fois qu'il soit astucieux, fin renard. Faut... Il y a un peu de tout
oui,
ça.
Il y a plus de subtilité puis il y a plus de nuances que ce qu'on pourrait
c'est
croire.
C'est ça, mais tu sais, César est mort à 31 ans. Là. Il a fait pas mal de stock avant de mourir. Oui, c'est ça.
C'est fou. fou, je veux dire, c'est complètement fou. Là, il a comme vécu une vie en accéléré. En même temps, quand tu deviens cardinal à 18, qu'est-ce qui te reste après, tu sais? Pas grand-chose, là, t'as pas mal tout fait.
Il aurait resté la papauté, il en a pas voulu, fait qu'il a fait autre chose.
Et voilà.
As-tu d'autres questions sur les Borgia?
Ben, ça va, je pense que ça fait bien le tour, mais c'est fou parce que j'aurais vraiment pensé que la lignée était plus longue et plus impressionnante que ça, alors que c'est un père et ses enfants, là, c'est comme
c'est tout.
Ça,
les Borgia. Il y a des descendants, là, via Geoffrey et Lucrèce, mais ces enfants-là, tu sais, sont remariés dans d'autres familles, puis tu sais, se perdent un petit peu dans la descendance, puis n'ont pas les ambitions, ou du moins ne sont pas associés au pouvoir, donc dans les archives, ben, ils sont à peu près absents.
C'est fou quand même. Bon, écoute, maintenant, on va passer à notre minute d'histoire sexy. Cette minute d'histoire sexy est, comme on vous l'a déjà dit, une présentation d'Eros et compagnie qui vous propose 15% de rabais si vous utilisez, oui, si vous étudiez, mais étudiez pas, là, vous n'avez pas besoin d'étudier, juste utilisez le code promo Histoire15 sur le site d'Eros. En plus, aujourd'hui, Evelyne, on a parlé du prince de Machiavel qui a finalement donné le mot machiavélique. Aujourd'hui, on va parler du sadisme.
Ben oui! Ben, c'était... j'aime bien faire des liens quand même. Je me suis dit, tant qu'à avoir justement des termes comme ça qui... quand on a comme ça des gens qui donnent leur nom à des expressions de la langue française, ben c'est intéressant. Et comme on avait le machiavélisme avec Machiavel et donc César Borgia pour l'incarner, le sadisme est un mot qui existe parce qu'il y a eu un marquis de Sade qui, de par ses comportements et des scandales qui lui sont associés, c'est pas ses écrits, en fait, ici, qui vont donner naissance tant au terme que sa vie personnelle, ben là, on tombe dans un autre univers. Donc, le sadisme, bon, c'est juste pour se définir, c'est une perversion sexuelle, hein, déjà, si on le définit bien. Et cette perversion-là, pourquoi c'est une perversion? C'est qu'on définit que pour atteindre l'orgasme, il faut faire souffrir physiquement la personne avec laquelle on a une relation sexuelle. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est correct, le sadomaso. Quand c'est consentant, tout à fait.
C'est ça que j'allais dire. Quand c'est fait dans dans l'accord de tous, il n'y a aucun problème avec ça.
Le problème avec le marquis de Sade, c'est ce mot-là.
Pas de consentement. C'est ça. Il est arrivé avant le mot consentement.
C'est ça. Et de son vrai nom, il s'appelait Donatien Alphonse François. Et
non, excuse-moi, là, Donatien n'a pas Alphonse une sexualité fleurissante. Tu comprends? Dans ma tête, un Donatien, ça lève même pas. Mais il paraît qu'il était quelque chose, là.
Oui. Tu sais, je veux dire, c'est quand même vient d'un noble de la famille, un noble de Provence, tu sais, je veux dire, qui déjà... Son père était déjà un libertin qui accumulait joyeusement les maîtresses. Donc, tu vois, on est encore un peu dans cet univers-là. C'est un peu l'idée. Notre Donatien Alphonse, qui est donc marquis de Sade, et pas mieux, il va cumuler les maîtresses. Il va cumuler aussi, à un moment donné, à une période très sensible de l'histoire de France, les scandales sexuels. Donc, on est entre 1763 et 1773, juste avant la Révolution.
La Révolution, oui.
Il y a 10 ans où là, il va commencer à faire parler beaucoup de lui. Il est noble. On ne punit jamais les nobles de la même façon que le reste de la société. Donc déjà, on essaie d'étouffer, de pas trop réagir, mais c'est qu'à un moment donné, il y a des scandales qui vont faire en sorte.
Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que je pense qu'il en a fait beaucoup. Tu sais, pour que ça se rende à nous, c'est qu'il a dû en faire vraiment beaucoup pour que ça sorte.
Pour que ça sorte et que ça se retrouve dans des rapports de police qui sont très explicites, c'est qu'on les a dans les archives. Donc on a ce qu'on appelle le scandale d'Arcueil en 1768, si je ne me trompe pas. Il a une maison. Il louait des maisons, des fois, où il y avait des maisons qui avaient l'air de rien, parce que justement, c'est là qu'il faisait ces choses sombres. Il ne faisait pas ça à la cour là, ou des choses comme ça. Et on sait qu'il a fait venir une veuve qui était vraiment pauvre. Puis il dit, viens faire le ménage, je vais te payer, tu vas avoir de quoi vivre. Elle y va. Et le rapport de police, on l'a, là, ça, c'est une archive. Il dit, il la force à se déshabiller. On sait qu'il l'a attaché, il l'a fouetté, il l'a sodomisé. Il l'a lacéré avec un canif et il a recouvert les plaies avec de la cire. Et c'est ça qui lui donnait du plaisir sexuel. Fait que, au-delà des 120 journées de Sodome, puis de Justine et la philosophie du boudoir, où à chaque mot philosophique, il y a un fouton quelque part et baison. C'est un peu ça quand vous le disiez, ce livre. C'est très particulier. Quand on dit sadisme, il était plus violent en réalité que dans ses écrits. Donc, pour lui, pour pouvoir jouir, il faut que la personne ait mal écrit. Mais voilà, nous ne sommes pas dans le consentement. Donc ça, c'est la chose bien importante. Et celui qui va faire en sorte qu'il va se retrouver à un moment donné à la Bastille, parce que c'est là qui est d'ailleurs, quand ils vont prendre la Bastille en 1789, il va rester là un méchant bout. C'est plus tard, c'est en 1772. Et déjà, là, ça fait un bout qui est dans les pamphlets, les rumeurs de l'époque. Tout le monde parle de lui. C'est pas bon pour la monarchie d'avoir un noble qui fait des choses comme ça. Là. C'est même très bizarre. Et à un moment donné, c'est que les gens vont demander à ce qu'il soit plus puni, tu sais. Il est allé à Marseille, puis il a fait venir des prostituées chez lui, puis il leur aurait donné des bonbons qui étaient toxiques parce qu'il pensait que c'était des bonbons aphrodisiaques, mais finalement, c'était juste un produit toxique. Ou là, c'est l'orgie, il y a des actes sadomasochistes, il offre de l'argent pour pas que si elles acceptent la sodomie, mais elles vont être malades et elles vont manquer de mourir. Et là, on pense qu'il veut les empoisonner pour étouffer ce qu'il fait. Ça semble pas avoir été nécessairement le cas, mais ça aussi, c'est dans les actes de police. Et c'est ce qui explique que le marquis de Sade se retrouve à la Bastille, où quand on va prendre la Bastille le 14 juin 1789,
il est
ils vont
nu.
Sortir de là nu comme un verre, exactement. Puis il va avoir écrit ses 120 journées de Sodome sur des petits rouleaux de papier. Mais c'est de là que vient le sadisme. C'est pas tant de ses écrits que du fait qu'on a des rares rapports de police qui mentionnent, pour la première fois dans l'histoire, les gens qui ont du plaisir sexuel en faisant souffrir les autres, mais cette fois-ci, quand ce n'est pas avec consentement. C'est de la violence, en fait, littéralement.
Ouh là, quel personnage! Mais on tient quand même à rappeler que quand c'est fait dans le plaisir, le consentement, dans votre chambre à coucher ou peu importe ailleurs, mais que tout le monde est d'accord, il n'y a aucun problème avec ça.
C'est pour ça que dans Sado, il y a aussi le marquis de Sade. Fait que si jamais vous êtes adepte du sadomasochisme, pensez à lui la prochaine fois que... voilà.
ou pas! Beaucoup, Evelyne Ferron. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye!